Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous. Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l'éducation nationale. Pourquoi et pour qui refonder l'école ?
Bien, Madame la rectrice, chère Françoise, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est à moi de vous remercier de m'inviter ce matin pour traiter de ce sujet important. En fait, il n'y a pas 50 sujets dans notre système éducatif, et celui-là est sans doute le plus important. Je commence par ça, en fait. Pourquoi et pour qui faut-il refonder l'école ? Et je vais commencer par nous remonter le moral, d'une certaine manière. Par les temps qui courent, ça peut être utile. Je veux dire par là que les défis qui sont posés à notre système éducatif aujourd'hui ne sont pas hors d'atteinte. Les objectifs de la loi de refondation du 8 juillet 2013 sont ambitieux, mais ils ne sont pas hors d'atteinte parce que, en fait, le passé de notre école plaide pour elle. On a été, nous, collectivement, depuis une quarantaine d'années maintenant, mobilisés pour élever le niveau de formation de l'ensemble des citoyens de ce pays. Je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, 44% des jeunes femmes, des jeunes hommes qui quittent le système éducatif le quittent avec un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est plus que nos voisins européens. Et c'est exactement le double de la génération, la mienne, qui part à la retraite. C'est-à-dire ma génération, nous étions à peine 20% à sortir du système éducatif avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Ça ne s'est pas fait tout seul. C'est vraiment le fruit d'un travail très important de l'ensemble de la nation, bien sûr, et puis de son système éducatif et de l'ensemble de ses personnels. On pourrait prendre un deuxième exemple. Nous avons, pendant des années et des années, buté contre ce chiffre absolument scandaleux de 140, 150 000 jeunes sortant du système éducatif sans qualification. Et nous sommes tombés là, il y a quelques jours, la ministre en a fait état, à moins de 100 000. Et si j'insiste un tout petit peu là-dessus, en commençant mon propos, c'est que c'est le fruit d'une mobilisation sur la longue durée. Au-delà des échéances politiques, ça aussi c'est très important. Nos concitoyens, nos personnels dans les établissements ont besoin de se rassurer de ce point de vue. Est-ce que nous sommes un pays en capacité de construire des politiques dans la durée ? Sur la lutte contre le décrochage, la réponse est oui. Puisque nous avons, je n'ai pas remonté au déluge, mais pour me faire comprendre, Xavier Darcos, Luc Chatel, 2009-2010, ont publié des textes importants, ont permis notamment qu'il y ait ce recensement qui n'existait pas auparavant de toutes celles et tous ceux qu'on était en train de perdre de vue ou qu'on avait perdu de vue. Donc ces plateformes de suivi et de repérage de ces décrocheurs. Et c'est là-dessus que Vincent Peillon puis Najat Vallaud-Belkacem ont pris appui pour aller rechercher dans un premier temps ceux qui avaient décroché et puis engager, prévenir, non seulement aller les rechercher, mais aussi aller prévenir ces décrocheurs. Ça, encore une fois, ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. C'est le fruit d'un long travail. Et peut-être, par les temps qui courent, dire que c'est en particulier le fruit du travail de personnes qui ont un statut de fonctionnaire. Je laisse planer un ange laïque sur cette auguste assemblée. Oui, alors, Madame la rectrice a précisé que j'étais inspecteur général honoraire, ce qui va me donner un peu de liberté de ton, dont je ne vais pas me priver. Alors, où est le problème ? Puisqu'on a un système éducatif qui sait réagir, qui a conduit des politiques montrant qu'il savait faire preuve d'efficacité. Où est le problème du système éducatif français ? Il n'y en a pas 50, il y en a un. Et je vais l'illustrer en vous montrant la manière dont nos élèves se comportent à l'évaluation PISA. Alors, pas 2015, puisque ça vient de sortir, et donc on n'a pas encore tous les tableaux opérationnels, mais il se trouve que, vous avez lu cela, l'évaluation PISA 2015 ne remet pas fondamentalement en cause, malheureusement, ce que l'on sait du système éducatif français. Donc regardons 2012, comment se comportent nos élèves français à l'évaluation PISA 2012, on évaluait les mathématiques. Vous avez toute la distribution des pays, là, qui, de la Corée au Mexique. Plus on est en haut à droite, et plus les élèves sont performants. Plus on est en bas et à gauche, et moins les élèves sont performants. La France, en 2012, est à la moyenne des résultats des pays de l'OCDE. Ça n'a pas changé depuis. Il se trouve que là, c'est les mathématiques. En 2015, c'est les sciences. Mais on a continué aussi un peu à évaluer les mathématiques et la maîtrise de la langue. On fait ça tous les 3 ans. Et ça n'a pratiquement pas
bougé. Ce qui n'a pas bougé non plus, c'est ce que je vous mets là en rouge. Où sont nos élèves de 15 ans à l'évaluation PISA? Où sont-ils dans le système éducatif? Une partie d'entre eux n'ont pas eu de soucis dans leur scolarité, sont en troisième à l'heure ou sont en seconde générale et technologique. Vous les voyez là? Vous remarquerez qu'ils ont de très bons résultats. Hein, on les a mis en alignement des Coréens, des Japonais, des Suisses, des Finlandais. Ils sont 54%. Toutes nos jeunes filles, tous nos jeunes garçons, là, qui sont concernés par ce que je suis en train de dire. Et ils ont les meilleurs résultats du monde, d'une certaine manière. En tout cas, ils soutiennent la comparaison avec les meilleurs élèves du monde. Mais il y a leurs copines, leurs copains de promotion, si je puis dire. Ils sont 25 à 30% qui, eux, sont massivement issus des milieux populaires et qui sont en très grande difficulté dans le système éducatif. Et regardez où ils sont. Ils sont au niveau des Chiliens et des Mexicains, c'est-à-dire les plus mauvais résultats du monde. Chez nous, la moyenne ne veut rien dire. Et d'une certaine manière, le classement par rapport aux autres ne veut rien dire non plus. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas infamant d'être dans la moyenne, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment se comporte une promotion de jeunes de 15 ans dans notre pays, dans ce type d'évaluation, et ça met en évidence que nous sommes le pays du grand écart. Le grand écart entre des jeunes qui vont très bien et des jeunes qui vont très, très mal. Et il y a un clivage social alarmant, c'est-à-dire que toutes les évaluations nationales aussi, puisque l'ADEP avait travaillé depuis très longtemps sur ces sujets, toutes les évaluations montrent que chez nous, et c'est ça qui est insupportable, chez nous le poids de l'origine sociale est le plus important dans les parcours scolaires. Nous sommes le pays qui sait le moins gommer l'impact d'une origine sociale défavorisée sur la réussite scolaire. D'autres pays sont touchés par les mêmes inégalités sociales que nous, ont les mêmes ghettos urbains que nous, ont les mêmes zones rurales défavorisées que nous, mais savent mieux que nous conduire l'ensemble d'une population scolaire vers des résultats satisfaisants. Nous, on ne sait pas le faire. Et on va tâcher, évidemment, de s'en expliquer, mais il n'y a pas 50 choses à savoir, finalement, sur le système éducatif français. C'est ça qu'il faut savoir sur le système éducatif français. Comprenez qu'en 90%, des enfants de cadres et d'enseignants ont le baccalauréat sans problème 7 ans après leur entrée en 6e, mais que ça n'est le cas que pour 40% des enfants d'ouvriers. On voit bien qu'il n'y a guère plus de progrès à espérer pour certains, mais que les marges de progression pour les autres sont énormes. Et donc, on peut commencer à répondre à la question « Pourquoi refonder l'école ?» Il n'y a pas 50 objectifs, il n'y en a qu'un objectif. Corriger les inégalités au sein de ce système éducatif. Et on peut aussi répondre à la deuxième question, pour qui faut-il refonder le système éducatif? Là, la réponse est un petit peu plus complexe. Bien entendu qu'il faut refonder l'école pour tous les élèves, c'est-à-dire y compris pour celles et ceux qui réussissent très bien à l'école aujourd'hui. C'est un acquis formidable qu'il ne faut pas gaspiller. Et il n'est pas question de baisser le niveau, évidemment, de ces élèves-là. Il faut rassurer leurs parents. Il n'est pas question de nivellement par le bas. Il n'est pas question d'égalitarisme stupide. Gardons cet acquis. Mais quand même, on doit à la vérité dire que s'il y a une cible prioritaire dans cette refondation, c'est bien la réussite des enfants les plus pauvres. C'est ça notre cible. Donc c'est une situation qui est largement connue. Hein, on ne la découvre pas en 2016. D'autres pays, encore une fois, concernés par ces inégalités de réussite, ont réagi très tôt, ont connu leur PISA choc. Je pense à l'Allemagne, qui avait pris un coup sur la tête en 2003, hein, quand ils ont vu les résultats. Et l'Allemagne a réagi. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, les Français? On a eu une attitude très française. On a critiqué le thermomètre. Qu'est-ce que c'est que cette évaluation? C'est des anglo-saxons. Qu'est-ce que c'est que ces exercices? Bon, ça veut dire qu'on a perdu du temps. Et maintenant, il est plus temps de critiquer le thermomètre, puisqu'encore une fois, c'est par rapport à nous-mêmes que nous pouvons maintenant nous juger et notre évolution depuis une dizaine d'années. Et on voit que ce problème-là subsiste. Comme j'ai une liberté de parole, je peux aussi dire qu'il est arrivé à notre pays de prendre les mesures exactement contraires à ce qu'il aurait fallu faire. En supprimant des emplois, en supprimant une matinée de classe à l'école primaire, en faisant le choix de ne plus former professionnellement ses personnels. Et donc c'est vrai que la situation des plus démunis est en train de se détériorer dans notre pays. Alors, la refondation, mais je vous ai donné l'exemple du décrochage montrant que ça vient de plus loin, il faut être modeste aussi, tout ne démarre pas en 2012. Ce que nous faisons depuis plusieurs années dans ce pays a l'ambition d'être ce pisa-choc, à condition qu'on ne se méprenne pas sur notre problème qui vient de très loin et qui ne sera pas résolu si on se contente d'injecter des moyens supplémentaires sans rien changer à l'organisation de notre système. On est, pour ce qui concerne la refondation, dans une quatrième année. On voit que ça commence à porter des fruits, à condition que ça s'inscrive dans une cohérence d'ensemble et dans la durée. Mais on voit bien aussi que le temps de l'éducation est un temps long et que les résultats vont tarder à venir. Il faut accepter cela aussi, que les résultats ne soient pas instantanés. On met toujours en exemple, on donne toujours en exemple le très très bon résultat finlandais. On oublie de dire que les Finlandais ont mis 15 ans au moins à construire leur système, à reconstruire un système éducatif qui était en très très grande difficulté. Donc il faut du temps. Mais c'est parce qu'il faut du temps qu'il faut commencer très vite. D'autant plus que la pauvreté est en train de progresser malheureusement dans notre pays. Donnons quelques chiffres. Aujourd'hui, on a au moins 8,5 millions de nos concitoyens qui sont en situation de pauvreté. C'est vivre avec moins de 60% du revenu médian. C'est donc une donnée relative. C'est le revenu médian d'un pays. Avec 60% du revenu médian en France, vous êtes pauvre, vous n'êtes pas pauvre avec ce même revenu si vous habitez en Inde. Donc c'est vraiment très, très relatif, cela. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. C'est en train d'augmenter. Et concrètement, dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, ça veut dire que nous avons entre 2,5 et 3 millions de jeunes qui sont en situation de pauvreté, c'est-à-dire 1 sur 5, 20%. C'est pas rien. Et si on fait un zoom sur la grande pauvreté, vivre avec 50% ou 40% du revenu médian, on est donc à 1,2 million de jeunes qui sont concernés dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées. Donc soit 10%, soit 20% selon l'échelle que l'on prend. Vous remarquerez simplement qu'on parle beaucoup moins de ces jeunes-là que des 15% qui sont en sixième bilangue. Je laisse planer, Madame la Rectrice, un deuxième ange laïque sur cette salle.
Les signes et les effets de la grande pauvreté dans les écoles et les établissements.
Bien entendu, l'école n'est pas responsable de tout. Il faut qu'on soit clair là aussi. Peut-on combattre efficacement les inégalités scolaires dans une société de plus en plus inégale, qui continue à produire de la précarité, du chômage, de l'exclusion, des ghettos urbains, de la grande pauvreté? Évidemment, si les pauvres étaient moins pauvres, leurs enfants viendraient à l'école avec une plus grande égalité de droits. Je dis de droits, parce qu'à ce niveau atteint par les inégalités dans notre pays, ça devient un peu absurde, voire cynique, de parler d'égalité des chances. Donc travaillons à l'égalité des droits dans ce pays. Et donc mon rapport sur la grande pauvreté a été l'occasion de mettre en évidence des situations insupportables dans un pays riche. Et j'ai mis des mots sur des situations, j'ai donné des exemples concrets. Mon rapport, c'est aussi, et j'ai plaisir à le dire devant vous, un hommage rendu aux équipes de terrain, tous métiers confondus, qui dans nos zones rurales, dans nos zones urbaines ghettoisées, sont quotidiennement au contact de ces difficultés et y font face. Nous avons des écoles, des collèges et des lycées qui sont des lieux admirables de solidarité, de réaction au quotidien, avec les moyens qui ne sont pas toujours suffisants pour aider le mieux possible les élèves et leurs familles et nos élèves à entrer plus sereinement possible dans les apprentissages. Il y a en effet, dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, un certain nombre de signes de cette grande pauvreté et un certain nombre de faits qui font que certains sont moins disponibles pour les apprentissages. Et vous le connaissez, cela, au quotidien. Comment est-ce qu'on peut bien apprendre quand on n'est pas bien logé? J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est une question qu'on a à se poser quand on donne du travail personnel à nos élèves. Dans quelles conditions on fait ça le soir, dans un hôtel social, ou dans un logement insalubre, ou dans une pièce surpeuplée? Certains de nos élèves, on va être dans le concret là, ont des problèmes vestimentaires et par la saison qui s'annonce, on le voit bien.
Je pense à ces écoles maternelles, mais je pourrais parler de bien d'autres endroits dans le système éducatif que j'ai vu, dans lesquels, dans la salle des maîtres, il y a des cartons avec des réserves de bonnets, de manteaux. Je vois des têtes, voilà. Venant des enfants, des enseignants, mais venant aussi de parents solidaires, hein, dans ces endroits-là. Il y a des élèves qui, aujourd'hui, ne sont pas correctement alimentés. Ça se passe de commentaires, mais je pense à ce cuisinier d'un lycée professionnel de l'Académie de Grenoble qui me disait, moi, le lundi midi, je vois bien qu'il faut que je charge un peu plus les assiettes de certains, parce que le week-end n'a pas été facile. Et puis, le vendredi, me dit-il, je ferme les yeux quand certains mettent beaucoup de pain dans le cartable. Je rappelle qu'on est on est la cinquième puissance économique mondiale. Nous avons des jeunes qui ne sont pas correctement alimentés. Les médecins d'éducation nationale pourraient vous en parler avec éloquence. On voit évidemment des signes de ces malnutritions. Les mêmes médecins nous disent, depuis 2 ans maintenant, attention, nous commençons à avoir des cas de sous-alimentation, c'est-à-dire des cas de maigreur liés à des difficultés importantes pour se nourrir. Quelle humiliation pour un jeune de ne pas participer à une sortie ou un voyage scolaire et de voir partir ses amis, ses copines, ses copains. Là encore, hommage aux équipes de terrain, beaucoup d'efforts pour aller chercher les subventions et hommage aux collectivités territoriales aussi qui font des efforts dans cette direction. On va chercher de l'argent, on fait des fêtes, on vend toutes sortes de choses pour récupérer un peu d'argent. Mais il reste assez souvent un reste à payer précisément, et ce reste à payer, il est quasiment impossible quand dans la famille, pour vivre chaque jour, il reste 4 ou 5 euros. Et on n'imagine pas l'humiliation que ça peut représenter. Alors, je connais des établissements dans lesquels la gratuité, on réussit à la mettre en place pour ses sorties, mais comment on organise le retour du correspondant espagnol dans son logement insalubre? Et dans certains cas, c'est évidemment très, très, très compliqué. Comment payer la photo de classe? Comment payer les fournitures scolaires? Là, je dois dire que si j'en avais eu besoin, ça m'aurait rendu modeste, cette affaire des fournitures scolaires, parce que en tant que directeur général, je suis l'auteur de quelques circulaires sur les fournitures scolaires pour appeler à la pondération, à la vigilance, pour que dans les établissements, dans les écoles, les établissements, on se concerte pour voir si le matériel qu'on demande est bien nécessaire. Et puis, est-ce qu'il est nécessaire de le demander en septembre alors qu'on s'en servira au mois de mars? Est-ce que dans les écoles d'une même commune, alors que la subvention est identique pour les écoles de cette même commune, est-ce qu'il est bien normal qu'il y ait des différences aussi importantes d'exigences entre les écoles? Dans mon rapport, je donne un exemple très concret. J'ai demandé à une inspectrice de l'éducation nationale d'Arras, à la rentrée de septembre 2014, de collecter toutes les demandes de fourniture des écoles de sa circonscription. Et puis avec son équipe de conseillers pédagogiques, ils sont allés dans les magasins, ils ont fait les additions. Et bien dans une commune où, encore une fois, la municipalité donne exactement la même chose à toutes ses écoles maternelles, les demandes des enseignants vont de 0 euros, parce que les enseignants considèrent qu'ils ont assez, ça va, à 37 euros par enfant de fourniture scolaire. C'est pas dans votre académie, madame la rectrice, que ces choses-là pourraient se passer. On se demande parfois sur quelle planète vivent certains de nos collègues pour avoir de telles exigences hors sol. J'attire aussi votre attention sur l'usage, là je m'adresse aux collègues du premier degré, mais aussi second degré, à l'usage que l'on fait dans ces conditions de la coopérative scolaire. Il y a des dérapages. La coopérative scolaire, c'est d'abord un outil pédagogique. C'est un outil pour apprendre la vie démocratique. C'est le travail en coopération. Ça n'est pas une caisse noire, la coopérative. Quand on fait payer la cotisation de la coopérative scolaire aux parents, les parents deviennent adhérents de la coopérative. On l'oublie. Où sont les assemblées générales? Où sont les conseils d'administration? Pourquoi c'est la directrice ou le directeur ou le principal qui est automatiquement le président de la coopérative? Où sont les justifications d'achat? Je suis tombé il y a 2 ans sur un endroit où on avait acheté un photocopieur avec l'argent de la coopérative scolaire. je mesure bien les difficultés, hein, on a besoin de matériel, etc. Mais j'ai aussi, parce que je vais souvent dans le fond des classes et je m'assois à côté des élèves et il m'arrive de récupérer quelques cahiers de liaison, et quand dans une école de la Somme je vois sur les cahiers de liaison des parents écrire une écriture très tremblante, on ne peut pas payer la coopérative parce qu'on n'a pas dit à ses parents que la coopérative c'était facultatif et que c'était pas obligatoire. Bon, je ferme la parenthèse. Faisons très attention, soyons attentifs sur ces différents sujets. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'accès aux soins. Notre système de santé est un système que la planète entière nous envie. Ils ont bien raison, parce qu'on a un très très bon système de santé. Et pour la quasi-totalité des familles et des enfants de ce pays, ça va très bien. Sauf que pour les 1,2 million de ceux qui sont vraiment en situation de grande pauvreté, qu'ils soient en zone rurale ou en zone urbaine, il y a un vrai problème aujourd'hui d'accès aux soins. Je pense à ces écoles du Havre, dans lesquelles 40% des caries dentaires ne sont pas soignées aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui. Et on pourrait multiplier, évidemment, les exemples.
Comment rendre notre école plus juste ?
Donc, comment est-ce que l'on peut faire, dans ces conditions, pour rendre notre école plus juste ? Il faut commencer par, effectivement, renforcer notre action sanitaire et notre action sociale. J'y reviens dans un instant. Mais ça ne suffira évidemment pas, parce que le problème de l'éducation nationale en France, il n'est pas que social, il n'est pas que sanitaire. Le problème, il est aussi pédagogique. Pour faire réussir l'ensemble des élèves, et notamment ceux issus de milieux populaires, il faut qu'on arrive à rendre notre système éducatif plus inclusif. Je vous ai mis là la citation de la loi de refondation du 8 juillet 2013. Nous reconnaissons tous collectivement, hein, la nation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Si nous avons éprouvé le besoin de le mettre dans la loi de refondation, c'est que ça n'est pas dans l'ADN de tous nos concitoyens, cette évidence. Il faudra d'ailleurs être sûr que ce soit dans l'ADN de tous les personnels, hein, de notre éducation nationale. Tous les enfants sont en capacité d'apprendre, simplement il faut organiser notre système éducatif pour qu'il soit en capacité de faire réussir tous les élèves, et pas seulement de trier et de sélectionner. Ce qu'il fait très bien, vous avez vu PISA, 54%, on sait très bien trier nous, hein. On sait sélectionner. Le problème c'est qu'on ne sait pas s'occuper des autres. Et bien entendu il y a une condition pour que tout ça fonctionne, pour que nous réussissions à élargir la base sociale de la réussite scolaire, c'est de maintenir un haut niveau d'exigence pour tous les élèves. Il n'est pas question de baisser le niveau. Exigence et bienveillance ne sont absolument pas contradictoires. Et le pire qui pourrait nous arriver, c'est de considérer qu'une école qui s'adresse aux pauvres devient une pauvre école, diminuée dans ses exigences. Et donc évidemment, c'est pour ça que c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile. Toujours beaucoup plus facile de trier et de sélectionner précocement d'avoir des scolarités différenciées. Là, nous avons une obligation de scolariser ensemble. Le premier levier, j'en ai identifié 4. Alors, je vous rassure, vous n'aurez aucun scoop, hein. On sait ce qu'il faut faire depuis longtemps. Si j'ai un petit mérite, c'est d'avoir essayé de rassembler dans un texte les différents leviers qui sont à notre disposition aujourd'hui. Si on ne se paye pas de mots, évidemment, on peut se payer de mots, mais si on ne se paye pas de mots avec l'objectif de réduction des inégalités dans ce pays. Le premier levier concerne, évidemment, c'est pour ça que j'ai sous-titré mon rapport du beau mot de solidarité, c'est la question des moyens, bien sûr. Commençons par là. Il faut qu'on accepte d'être davantage inégalitaire en moyens pour, comme j'essaie de l'expliquer, être égalitaire en réussite. On ne part pas de rien dans cette affaire. On ne découvre pas le sujet, et là encore, c'est apporté à notre crédit collectif. Hein. On est de plus en plus performant, de plus en plus fin dans la distribution des moyens que la nation nous confie. Et nous venons de faire récemment un progrès vraiment significatif. Le ministère attribue maintenant aux académies les moyens sur quasiment un critère unique qui est le critère social. Alors qu'auparavant, le critère social était un des paramètres qui entrait dans une palette d'indicateurs pour attribuer les moyens aux académies. Et je peux vous dire que ça s'est senti dès les rentrées 2015, à fortiori rentrée 2016, avec des redéploiements d'une certaine manière, avec des ajustements de dotation sur le territoire national, parce qu'on s'est aperçu que sur ce critère social, certaines académies étaient moins dotées qu'elles ne devraient,
et que d'autres étaient sans doute, mais pour des raisons historiques, plus dotés que le critère social ne l'aurait justifié. Quand nous mettons l'accent sur la priorité à l'école primaire, c'est une façon de mieux cibler les moyens en direction des élèves qui sont les plus en difficulté, puisque les moins de 100 000 maintenant et 140 000 il y a quelques années décrocheurs, nous ne les découvrons évidemment pas à 16 ou 17 ans. Nous les connaissons en fait depuis leur entrée pratiquement dans notre système éducatif, puisque les difficultés scolaires se manifestent très très tôt. Dès le cours préparatoire, on voit qu'il y a des difficultés importantes. Et si nous ne mettons pas suffisamment de moyens dans notre école primaire, on n'aidera évidemment pas celles et ceux qui sont en difficulté à dépasser ces difficultés. On est un curieux pays d'ailleurs, vous le savez peut-être, puisque maintenant les chiffres commencent à être diffusés, mais nous dépensons 15% de moins que les autres pays pour notre école primaire. Je parle des autres pays qui nous sont comparables. Je ne compare pas avec des pays évidemment pauvres, mais des pays qui nous sont comparables dépensent 15% de plus pour leur école primaire. Nous nous marchons sur la tête, parce que nous dépensons 30% de plus que les autres pour notre lycée. C'est une folie. Donner plus de moyens à l'école primaire, ça n'est pas nuire au collège et au lycée. C'est au contraire donner au collège et au lycée des élèves en meilleur état, et en meilleur état de suivre une scolarité secondaire. Si nous n'assumons pas les bases, évidemment, il y a peu de chances que la refondation puisse avoir quelques succès. Donc il faut continuer cet effort dans la direction de l'école primaire. Je rappelais à Madame la rectrice il y a quelques instants que je suis venu moi déjà dans cet amphithéâtre au début de l'année 2013. Il y a peut-être des gens qui étaient dans cette salle quand on a relancé la scolarisation précoce des moins de 3 ans en école maternelle et que nous avons fait dans cet amphi un séminaire interacadémique. Il faut relancer la scolarisation des moins de 3 ans prioritairement évidemment dans les zones en difficulté, qu'elles soient urbaines ou rurales. Parce que là aussi, il faut le dire, sans esprit de polémique, mais dans ce pays, on a fait à certains moments de l'école maternelle une variable d'ajustement budgétaire. Et on scolarisait 35% des enfants de moins de 3 ans en 2002, et c'était tombé à 11% en 2012, au moment où on a supprimé beaucoup d'emplois. Et donc, il faut reconstruire cette scolarisation précoce, parce que entre deux enfants, vos enfants, ou petits-enfants, ou cousins, cousines, neveux, nièces, qui entrent à l'école à 3 ans, et un enfant de pauvre qui entre à l'école à 3 ans, il y a 1000 heures pour l'un de lecture entendue dans sa famille et zéro pour l'autre. Et des heures de lecture, c'est des heures de vocabulaire, c'est des heures d'acculturation, c'est des heures d'apprentissage syntaxique. Je passe, vous voyez bien ce dont je veux parler. Des moyens, oui, mais pas sans changer l'organisation du système. C'est pour ça que nous avons mis en place le dispositif plus de maîtres que de classes, pour que les approches pédagogiques, les dispositions pédagogiques puissent évoluer aussi à l'école primaire. Et nous commençons à avoir quelques informations qui nous disent que c'est une idée qui finalement est très porteuse, là, de permettre d'être au plus près des élèves à certains moments de la journée, d'être plusieurs enseignants expérimenter des professionnels dans la classe au contact d'élèves qui sont en difficulté. Petite parenthèse, quand l'OCDE s'exprime maintenant, notamment sur PISA 2015, elle dit en gros, la France est sur la bonne direction quand elle met autant le paquet sur son école primaire, parce que ça fait trop longtemps que ça avait été négligé. Dans les moyens absolument nécessaires, il y a évidemment la question des services sociaux et de santé. Et donc l'aide sociale est apportée à hauteur des besoins. Dans les 54 000 postes de la loi de refondation, il y a des postes d'assistants sociaux, il y a des postes d'infirmiers, il y a des postes de médecins qui ont été créés. Personne ici ne vous dira que c'est suffisant. Et il va falloir continuer, précisément parce que la pauvreté augmente. S'agissant des médecins, la question n'est même plus une question de poste. C'est une question de poste, bien sûr, mais ce n'est pas qu'une question de poste, parce qu'on n'arrive pas à les pourvoir, ces postes. Le métier n'est pas attractif. On n'a pas su valoriser ce métier dans les études médicales, donc on a un vrai travail aussi à effectuer dans ce pays. Si on veut trouver des médecins d'éducation nationale, il faut les traiter d'une certaine manière dignement dans le système éducatif. L'aide sociale, c'est, s'agissant de nos élèves pauvres, c'est les bourses. Vous connaissez cela, vous, mais nos concitoyens ne savent pas, en tout cas ceux qui n'ont pas besoin de bourse, ne savent pas que le montant le plus élevé d'une bourse de collège aujourd'hui, quand on est pauvre, c'est 360 euros par an. 180 jours de classe, ça fait même pas 2 euros. Enfin, ça fait 2 euros par jour et ça ne paye pas l'entrée à la restauration scolaire. Et donc, bien entendu, avec une explosion de la pauvreté, le montant des bourses n'est pas à la hauteur des difficultés. On vient d'augmenter les bourses, la ministre vient d'augmenter les bourses pour les lycées. Il est évident qu'il va falloir augmenter prochainement les bourses pour les collégiens, c'est évident. Mais le montant de la bourse, c'est une chose. La question, c'est est-ce que tout le monde recourt à ce droit ? La réponse est non. Il y a des familles défavorisées dans ce pays qui ne bénéficient pas de ce droit. Et quand, dans les établissements scolaires, nous faisons la comparaison entre le taux de CSP défavorisé et le taux de boursier, il y a très souvent une distorsion. Parfois, ça peut s'expliquer. Parfois, il n'y a pas d'autre explication que notre incapacité à être auprès des familles pour les aider à recourir à ce droit. Et quand je parle de cette incapacité, elle est ministérielle. Chacun prend sa responsabilité. Nos dossiers de bourse sont d'une complexité incroyable. Les pièces à rassembler ne sont absolument plus adaptées à une période où la précarité peut vous tomber dessus du jour au lendemain. On demande les revenus imposables N-2. Ça n'a aucun sens. Et puis, il y a des dates butoirs. Alors, moi, quand j'étais directeur général de l'enseignement scolaire, j'avais demandé à mes services, mais pourquoi est-ce qu'on a fixé la date butoir au 30 septembre ? Et je n'ai jamais obtenu de réponse parce qu'en fait, on se contente chaque année de remettre la même date butoir qu'il y avait dans la circulaire de l'année précédente. Et donc la ministre a décidé que la date butoir serait plutôt à la Toussaint maintenant, mais l'objectif, et c'est ce qu'elle fera, c'est qu'il n'y ait plus de date butoir du tout. Ben, évidemment, on répond aux situations quand elles se présentent. Donc ça, c'est pour la responsabilité ministérielle. Mais on a, pardonnez-moi de vous le dire, peut-être quelques marges de progression aussi dans nos établissements. Je vais vous donner un exemple absolument outrancier pour me faire comprendre, et madame la rectrice, je vous assure que ça, ce n'est pas dans votre académie. C'est énorme. Heureusement, c'est rare. Mais ça, quand même, ça dénote tout de même. C'est dans une académie, au moment où on refait la carte de l'éducation prioritaire, on téléphone à un principal de collège et on dit à ce principal de collège, monsieur le principal, donc là, on est en 2014, hein, 2013-2014, vous avez finalement une diminution du taux de boursier dans votre établissement. Plutôt bon signe, ça veut dire que votre mixité sociale est en train de s'étendre. Tant mieux pour vous, nous allons donc vous faire sortir de l'éducation prioritaire. 3 semaines après, le même principal rappelle les services du rectorat pour dire « je viens d'augmenter mon nombre de boursiers ». Il avait mobilisé un peu plus que d'habitude ses troupes et de fait, il est resté en éducation prioritaire. Non, je veux dire par là que, sans être intrusif, parce qu'une école inclusive n'a pas à être une école intrusive, nous avons quand même des yeux, des oreilles, nous avons une empathie, et il y a des personnels qui savent formidablement le faire, nos assistants sociaux, mais on oublie parfois la secrétaire du chef d'établissement ou le secrétaire du chef d'établissement qui est à l'écoute. Hein, c'est souvent le premier contact avec les familles. Et c'est souvent comme cela qu'on apprend qu'il peut y avoir telle ou telle difficulté. Bref, je n'insiste pas, on a sans doute des marges de progression pour être davantage à l'écoute, sans être intrusif, des familles qui sont en grande difficulté. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suggère dans mes propositions que dorénavant, quand on fait le point sur l'année scolaire dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, je pense à ces rapports de chefs d'établissement devant leur conseil d'administration, il y a un volet social. Il y a un volet social pour que, voilà, on fasse le point, non pas pour entrer dans la vie privée des personnes, c'est pas du tout le sujet, mais par exemple sur la question des fournitures, comment nous nous sommes pris dans notre école, dans notre collège, dans notre lycée, pour, avec les parents d'élèves, est-ce qu'on a créé une commission de fournitures, est-ce qu'on a fait des listes types, est-ce qu'on a fait des kits fournitures, il y a de quantités d'exemples d'établissements où on fait des kits fournitures pour que ça représente le coût le moins possible pour les familles, comment nous nous sommes pris dans cet établissement pour réduire le taux de non-recours à la bourse. Et puis comment nous nous y sommes pris pour dépenser les fonds sociaux, parce que quand les bourses ne suffisent pas, il y a des fonds sociaux. Formidable idée, 1999-2000. Les fonds sociaux étaient à 73 millions d'euros en 2001, ils sont tombés en 2012 à 32 millions d'euros. Ça, je l'ai découvert quand je suis arrivé à la DGESCO. Les établissements qui ont été concernés, touchés par cette baisse scandaleuse des fonds sociaux, eux l'ont vu quotidiennement, si je puis dire. Mais ça s'est fait dans un très grand silence. Il y a eu quelques protestations, mais assez peu. Est-ce que vous avez souvenir de pétitions pour protester contre la baisse des fonds sociaux ? Il y a eu des manifestations ? Il y a eu des grèves ? Non ? Non ? Touché à 15 minutes
du programme de terminale S où sont scolarisés les enfants des milieux favorisés, et vous aurez tous les journaux télévisés de 20h absolument affolés. Prenez dans les fonds sociaux et il ne se passe rien dans ce pays. Donc on vient d'augmenter les fonds sociaux à hauteur de 65 millions d'euros, mais ce n'est pas encore le taux des fonds sociaux de 2002. Et donc il va falloir revenir le plus vite possible à ce qu'ils étaient en 2002, parce que depuis 2002, quand même, il y a davantage d'élèves en situation de très grande difficulté dans ce pays. Concentrer les moyens, c'est aussi la question de l'accompagnement des élèves défavorisés dans leur travail personnel. Parce que ce travail personnel, après la classe, après les cours, on sait tous que c'est un moment très important pour fixer les apprentissages. Et il faut du travail personnel après la classe. Le problème, c'est que c'est le moment aussi où se creusent les inégalités entre les élèves. Et donc, nous avons une responsabilité dans ce cadre-là. Nous avons une responsabilité dans le temps scolaire. On a des moments d'accompagnement des élèves. Sous notre responsabilité, alors dans le temps scolaire ou sous notre responsabilité, par exemple, dans le premier degré, les activités pédagogiques complémentaires. J'attire votre attention là-dessus, celles et ceux qui travaillent dans le premier degré. Je sais qu'il y a actuellement quelques-uns de nos partenaires qui disent qu'il faudrait supprimer les activités pédagogiques complémentaires. Ça serait un non-sens, parce que dans ces activités pédagogiques complémentaires, entre parenthèses, ça n'est quand même pas énorme, c'est une heure. On peut aider quelques élèves dans ce travail personnel à l'école élémentaire sous la direction d'un professionnel qui est un professeur des écoles. Et c'est quand même bien les élèves qui sont les plus en difficulté qui peuvent en bénéficier. Si on laisse échapper cela, évidemment, on ne contribuera pas à la réduction des inégalités. Et puis, dans le second degré, il y a l'accompagnement personnalisé. Accompagnement personnalisé, j'attire votre attention. Là, je m'adresse à celles et ceux qui travaillent dans le collège. Depuis cette rentrée, nous avons 3 heures d'accompagnement personnalisé en classe de 6e. Suivons comme le lait sur le feu ces 3 heures d'accompagnement personnalisé. C'est des heures d'accompagnement, c'est-à-dire que ça peut à la fois servir de soutien, de renforcement aux élèves qui sont en difficulté, mais comme on s'adresse à tous les élèves, ces heures peuvent aussi être utiles aux élèves qui vont mieux que les autres et qui auraient besoin de temps pour aller un peu plus loin. Accompagnement personnalisé, ce qu'on ne sait pas faire dans ce pays et qu'il va falloir apprendre à faire. Mais 3 heures, attention. Celui qui vous parle, il commence à avoir quelques heures de vol dans le système éducatif. Celui qui vous parle a connu le collège avant Abby. Moi, j'ai commencé ma carrière comme professeur d'histoire-géographie dans un collège près d'Amiens, à Ilhy-sur-Somme, en 1973. Donc, j'ai connu les collèges avec les 3 filières. Classe de transition, filière 3, les classes conduisant vers des formations courtes, filière 2, et puis la voie royale, la filière 1 qui conduisait au lycée général. En 1975, René Haby supprime ces 3 filières et rassemble dans des 6e hétérogènes tous les élèves des 3 filières précédentes, classe hétérogène. René Haby, qui connaît bien le système éducatif, sait bien que ça ne peut pas fonctionner si on traite ces élèves de façon uniforme, puisqu'il va y avoir des élèves en difficulté. On les identifie, même on dit qu'il va y avoir 25% d'élèves en difficulté dans les classes de 6e hétérogène. Et donc la grille horaire de 1977, que moi j'ai mise en œuvre en tant que prof d'histoire-géographie, pour une classe de 6e, c'était 21 heures de cours et 3 heures libres. Tiens, 3 heures libres. Oui, 3 heures libres pour s'adapter aux différences d'élèves. Que sont devenues ces 3 heures libres 2 ans après, pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, 2 ans après? 1 heure de plus pour tous les élèves en français, 1 heure de plus pour tous les élèves en mathématiques et 1 heure de plus pour tous les élèves en langue vivante. Plus de différenciation. On est revenu dans ce qu'on sait faire le mieux dans ce pays, un enseignement disciplinaire uniforme pour tous les élèves. Voilà comment notre éducation nationale est capable de digérer les meilleures réformes pour retomber dans ces ornières un peu favorites. Donc attention aux 3 heures d'accompagnement personnalisé. Suivons ça vraiment très attentivement, parce que le passé, là pour le coup, ne plaide pas vraiment en notre faveur. Parce que ce travail personnel est essentiel, j'ai dans mon rapport 2 propositions qui sont des propositions de bon sens. Qu'en début d'année scolaire, dans tous les conseils d'école, dans tous les conseils d'administration, on pose la question du travail personnel que l'on va donner dans cette école ou dans cet établissement aux élèves. Sa nature, son volume, ça veut dire qu'il y aura une réflexion évidemment préalable au sein des équipes pédagogiques sur le travail personnel qui va être demandé aux élèves. Et quand il s'agit, deuxième proposition, d'un travail personnel qui va nécessiter de la recherche documentaire, par exemple pour préparer un exposé, pour préparer un montage d'exposition, l'élève va devoir aller faire de la recherche documentaire. Eh bien, qu'il n'y ait plus ce type de travail demandé sans s'assurer au préalable que dans le temps scolaire, dans le temps où l'élève va être présent dans l'établissement, avec les outils de l'établissement, par exemple au CDI, accès à la banque de données informatique, l'élève pourra faire ce travail avec les moyens que la République lui donne. Parce que si on ne prend pas cette précaution, qui on va évaluer quand l'élève va revenir avec sa magnifique recherche documentaire en fonction de son milieu social? La réponse est contenue, évidemment, dans la question. Mais le travail personnel, c'est aussi hors temps scolaire. Et là, il y a quelque chose de très important qui a été mis en place par Xavier Darcos, qui est l'accompagnement éducatif. Formidable progrès, ça. Vous savez, c'est pour ces orphelins de 16h30, c'est comme ça qu'on le disait à l'époque, avec des activités, notamment de l'aide aux devoirs. Accompagnement éducatif qui a été doté dès 2008 de 303 millions d'euros, mais qui a été doté en 2014 de 270 millions d'euros et qui est doté en ce moment plutôt de 250, voire 240 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est un budget sous contrainte que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de protéger. Donc ces crédits diminuent. C'est sur la ligne de la LOLF qu'on appelle le 230, je parle là des spécialistes, qui est la ligne budgétaire qui est touchée de plein fouet chaque fois qu'il y a des restrictions budgétaires, des gels budgétaires, et c'est normal que l'éducation nationale participe à l'équilibre budgétaire de la nation, je ne remets pas ça en cause, sauf que ça tombe toujours sur une ligne budgétaire qui est celle-là. Donc là, on a un budget sans contrainte qui nous a fait d'ailleurs fait enlever l'accompagnement éducatif dans les établissements qui ne sont pas éducation prioritaire. Or, il y a des élèves en difficulté partout dans ce pays, et pas seulement en éducation prioritaire. Donc j'en parle dans mon rapport, parce que moi je dis les choses, je dis qu'effectivement, là, il va falloir qu'on trouve le moyen d'augmenter à nouveau cette ligne d'accompagnement éducatif. Mais là où, de temps en temps, je pousse un petit cri de colère, c'est que tous les accompagnements éducatifs de ce pays ne sont pas sous contrainte budgétaire. Il y a des accompagnements éducatifs qui sont sans contrainte, qui sont protégés, cadenassés, verrouillés de l'intérieur. On n'y touche pas. Je laisse planer le suspense. C'est insupportable, ce suspense. C'est l'accompagnement éducatif en classe préparatoire aux grandes écoles. Qu'on appelle les heures de colle. Il y a aujourd'hui 84 000 étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'heures de colle. Je constate simplement, en tant que citoyen, un peu plus qu'en tant que citoyen, puisque j'ai découvert ça quand j'étais directeur général de l'enseignement scolaire. Si vous avez ces chiffres, c'est que je les ai sortis, parce que jusqu'à présent, ils étaient soigneusement cachés. Donc il faut, je ne remets pas en cause ces heures de colle. Je constate simplement que dans une période de crise, de restrictions budgétaires, un pays comme le nôtre sait trouver 70 millions d'euros pour les heures de colle pour 84 000 étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles, mais ne sait pas les trouver, ces 70 millions d'euros, pour 1,2 million d'enfants de pauvres qui ont besoin d'acheter une tenue de sport, d'accéder à la restauration scolaire, d'acheter une paire de lunettes, etc., avec les fonds sociaux. C'est un constat, quand même, qu'on peut faire. On est un curieux pays. Si vous ajoutez à cela que celles et ceux qui ont les moyens peuvent donner des cours particuliers à leurs enfants, et que ces cours particuliers, comme c'est de l'aide à la personne, c'est une exonération fiscale est possible. Et ça nous coûte 300 millions d'euros d'exonération fiscale, cette affaire, chaque année, en tant que contribuable, en tant que citoyen. Et donc, osons cette question, enfin, en tout cas, moi, je l'ose. Qui sont les assistés dans ce pays? Qui sont les assistés? Quand on diminue les fonds sociaux et qu'on augmente les crédits destinés aux élèves issus des classes sociales les plus favorisées. Donc quand on dit solidarité, oui, mais de temps en temps, c'est une solidarité à l'envers dans ce pays, qui par ailleurs a au fronton de tous ces établissements publics liberté, égalité et fraternité. Deuxième levier, supposons que toutes ces questions-là soient réglées. Ça ne suffirait pas évidemment à assurer la réussite de tous les élèves parce qu'il y a un deuxième levier qui est le levier pédagogique, bien entendu. Je vous mets là ce que nous avons écrit dans la loi d'orientation, qui est maintenant dans le code de l'éducation, qui résume en fait
tout ce que l'on sait qu'il faudrait faire pour que le système éducatif français soit enfin plus juste dans son organisation pédagogique. Et j'ai mis des choses en gras, qui, évidemment, ce n'est pas comme ça que c'est écrit, et ce n'est pas en gras dans le code de l'éducation, mais en fait, ça résume tout ce qu'il faudrait faire. Mais là, on est dans la théorie, bien sûr. Mais, donc, vous retrouvez que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Vous retrouvez l'idée d'inclusion scolaire. Vous retrouvez l'idée de mixité sociale. J'y reviens dans un instant. Vous y retrouvez l'idée de participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. J'y reviens. Et puis, vous retrouvez aussi l'idée de dialogue et de coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Si je vous projette cela, c'est que dans notre pays aujourd'hui, ça n'est pas une utopie. Et que dans mon rapport, mais aussi dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental, qui a été publié en même temps que le mien, et avec sa rapporteure Marie-Hélène Grard, qui est vice-présidente d'ATD Quart-Monde, nous avons travaillé ensemble pendant un an, nous avons des propositions qui nous sont communes, et nous avons parcouru le pays dans tous les sens ensemble. Et si je vous dis aujourd'hui que ça, ce n'est pas une utopie, c'est qu'il y a d'ores et déjà aujourd'hui dans ce pays des écoles, des collèges, des lycées qui ont trouvé des dispositifs pédagogiques qui mettent en œuvre des actions pédagogiques efficaces pour réduire l'impact de l'origine sociale sur la réussite scolaire. Donc, ce n'est pas un rêve, d'abord parce que ça existe dans d'autres pays, et puis ce n'est pas un rêve parce que dans notre pays, il y a déjà des magnifiques équipes qui sont au travail, et ces équipes font honneur à l'école de notre République. J'ajoute que dans ces endroits-là, on a dépassé depuis longtemps des oppositions qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. Je veux parler de ces oppositions factices, stériles, comme par exemple l'opposition entre éducation et instruction. Qu'est-ce que ça a fait perdre comme temps, ça ? Évidemment qu'il n'y a pas d'opposition entre éducation et instruction. Opposition entre connaissance et compétence. Évidemment qu'il n'y a pas d'opposition entre connaissance et compétence. Entre didactique et pédagogie. Entre cadrage national et autonomie. Entre républicain et pédagogue. Ça, c'est une opposition qui nous a fait perdre un temps infini dans ce pays, républicain et pédagogue. Ce n'est pas parce qu'un enseignant est pédagogue qu'il est un pédagogiste irresponsable, baissant le niveau d'exigence par facilité. Et ce n'est pas parce qu'un enseignant est républicain qu'il est un réac républicain qui aurait arrêté son horloge dans les années 50 avec l'image d'un système éducatif idéal qui, par ailleurs, n'a jamais existé. Il paraît même qu'il y a aujourd'hui des pédagogues prétentieux. Je ne sais pas si vous avez entendu ça récemment. Moi, je vous dis simplement que quand la haine de la pédagogie prépare le retour à la sélection précoce des élèves, ça veut dire que ceux qui n'aiment pas la pédagogie n'ont vraiment jamais accepté en réalité la démocratisation de l'enseignement. Et je voudrais bien, moi, qu'on me dise en quoi une école plus démocratique serait moins républicaine. Donc, on sait ce qu'il faut faire grâce à des écoles qui nous le montrent. On sait ce qu'il faut faire aussi grâce à la recherche. Grâce à la recherche en éducation, qui est très prolifique dans ce pays, les chercheurs documentent un certain nombre d'études et nous disent qu'il y a effectivement des dispositions pédagogiques qui sont plus favorables que d'autres à la réussite de tous les élèves. Si on entre un tout petit peu dans le détail, en effet, nous savons tous qu'il n'y aura pas de progrès significatif dans la réduction des écarts de réussite dans ce pays s'il n'y a pas davantage de mixité sociale et scolaire dans nos établissements. Tout le monde est d'accord sur le principe. Mais c'est difficile parce que quand les politiques publiques, et sur le long terme, bien sûr, ont laissé se concentrer au même endroit des élèves en grande difficulté sociale ou victimes de la ségrégation ethnique, il est évidemment beaucoup plus difficile de créer une dynamique pédagogique. Il est très difficile d'éviter la spirale de l'échec scolaire et de continuer à croire en l'école quand les territoires et les établissements scolaires pour pauvres s'enfoncent toujours plus dans la difficulté. Mais raisonnons là en tant que citoyens. Quelle société nous préparons si on ne parvient pas à faire vivre et à faire apprendre ensemble, au moins pendant le temps de la scolarité obligatoire, dans des établissements hétérogènes, toute la jeunesse de notre pays dans sa diversité? Et pour connaître bien, je crois, ce sujet sur la pauvreté et pour être au contact ceux de nos concitoyens qui sont dans cette situation-là, je peux vous dire, moi, qu'ils ne demandent pas pour leurs enfants une école qui les scolarise à part. mais ils demandent vraiment la construction d'une école qui soit pensée et organisée pour leurs enfants aussi, et pas seulement pour celles et ceux qui se destinent aux formations de l'élite. Simplement aussi, on peut se dire, est-ce qu'il peut exister une citoyenneté partagée ? Est-ce qu'on peut se gargariser encore avec le vivre ensemble si on n'est pas fichu de scolariser ensemble ? Encore une fois, au moins pendant le temps de la scolarité obligatoire, toutes celles et tous ceux qui sont ensuite destinés à vivre ensemble dans la société. Bien entendu, nous n'avons pas créé les ghettos urbains. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de la politique d'urbanisation, mais on a quand même quelques responsabilités. On a une pierre à apporter à cette construction ou cette reconstruction d'une mixité sociale et scolaire dans notre pays et donc dans nos établissements scolaires. Je ne vais pas être très long là-dessus parce que c'est un sujet que vous connaissez bien, mais je sais qu'il y a des CPE dans l'amphithéâtre, donc je crois que je peux parler en leur nom pour leur dire que, bien entendu, une des conditions pour rassurer l'ensemble des citoyens, pour que les classes moyennes, les classes favorisées acceptent que leurs enfants côtoient les enfants des pauvres dans les établissements, une des conditions, c'est le climat scolaire. Bien sûr. Chacun veut le meilleur pour son enfant. Et il est parfaitement humain d'hésiter à mettre son enfant dans un établissement si on craint qu'il soit racketté, si on craint qu'il soit l'objet de violences, d'incivilités, etc. Donc c'est vrai que le climat scolaire, c'est un préalable. Mais si je parle au nom des CPE, que je connais bien aussi, je crois pouvoir dire en leur nom que les CPE disent aussi que le climat scolaire, c'est une conséquence. Ce n'est pas seulement un préalable, c'est une conséquence. Ça veut dire que dans un établissement où on met en place une pédagogie attentive aux élèves, où on déploie des dispositions pédagogiques qui encouragent, qui ne découragent pas, qui préviennent le décrochage, eh bien le climat scolaire est un bon climat scolaire parce qu'on a établi une confiance et des situations propices aux apprentissages. Donc, attention, ne demandez pas seulement, je parle là aux enseignants, aux CPE, d'être de bons service d'ordre pour assurer l'ordre dans l'établissement, mais la manière dont nous travaillons pédagogiquement avec nos élèves, c'est aussi une façon d'assurer un bon climat scolaire. Et puis, bien entendu, c'est là-dessus que je vais insister, notre responsabilité, c'est aussi de garantir à l'ensemble de nos concitoyens une égalité dans l'offre de formation dans nos établissements. Je vais juste vous donner un exemple pour me faire comprendre. Moi, j'ai été inspecteur d'académie en Seine-Saint-Denis, dans une vie antérieure, et je me souviens très bien de ce collège dans lequel il y avait 5 postes de professeurs de mathématiques, mais aucun poste pourvu par un titulaire, que des contractuels, dont certains d'ailleurs se succédaient à plusieurs sur le même poste dans l'année, et qu'on n'était pas fichu de remplacer d'ailleurs quand ils étaient absents. Comment garantir aux parents une égalité de formation mathématique dans cet établissement-là, alors que pas loin, de l'autre côté du périphérique, dans un même établissement avec 5 postes de prof de maths, il y avait 4 certifiés et un agrégé, expérimenté et stable. Voilà. Donc nous avons une vraie responsabilité dans notre système éducatif. Et quand je dis nous, responsabilité, ce n'est pas seulement le ministre, recteur, DAZEN, etc. C'est l'ensemble de la communauté éducative qui a une responsabilité. Parce qu'il va peut-être falloir que nous revoyions notre méthode de gestion de ressources humaines, y compris avec nos partenaires des organisations syndicales, pour que ce ne soit pas une fatalité dans ce pays de mettre dans les établissements les plus difficiles, les moins expérimentés, les plus jeunes, les moins titulaires, et de voir dans des établissements plutôt de centre-ville les plus expérimentés, les plus diplômés, et donc les mieux payés. On a une responsabilité collective dans cette affaire. Si vraiment l'objectif c'est de faire réussir tous les élèves, bien sûr, toutes les organisations pédagogiques ne se valent pas. Et là, je vous ai dit, il n'y a aucun scoop, parce qu'on sait en gros qu'il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, une meilleure attention au cycle, c'est-à-dire à la progressivité des apprentissages, c'est propice à la réussite de tous les élèves. Quand nous savons rédiger, grâce au CSP, on vient de le faire, Conseil supérieur de programme, on vient de faire enfin un socle. Tiens, le socle. Autre exemple qu'on peut donner à nos partenaires de la communauté éducative, d'une France qui, de temps en temps, sait faire des choses dans la continuité. Le socle, c'est 2005. Le socle commun. Formidable avancée. Il n'a pas été remis en cause en 2013. Simplement, on l'a écrit différemment parce que les choses évoluent, mais c'est un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et enfin, on a des programmes qui ont été rédigés en harmonie avec le socle. On sait aussi que si on accorde une plus grande attention aux transitions entre les différents niveaux d'enseignement, on va rendre service aux élèves les plus fragiles, parce que ce sont les élèves les plus fragiles qui souffrent le plus quand, par exemple, on n'a pas une transition harmonieuse entre école et collège. C'est pour ça qu'on a fait le cycle CM1, CM2, 6e. C'est une révolution. Si on arrive à le faire fonctionner, ce cycle, on va aider les élèves les plus fragiles à accéder au collège. Non pas pour faire de la 6e un CM3. Le collège reste le collège. La 6e va rester une 6e de collège, mais elle sera dans une plus grande continuité avec ce qui s'est passé à la fin de l'école élémentaire. Le conseil école-collège, il n'est pas sorti de l'esprit d'un chef de bureau de la DGESCO. Il vient de l'éducation prioritaire. Ce sont nos collègues de l'éducation prioritaire qui, depuis très longtemps, parce qu'ils sont confrontés à la difficulté, ils sont obligés de travailler en équipe et de travailler de façon collégiale, ils avaient inventé ces moyens de dialogue entre les professeurs école et professeurs de collège. Et donc, on a créé ce conseil école-collège. On sait aussi maintenant, et ça, c'est plus du fantasme, c'est plus une opinion. On le sait parce qu'il y a des écoles qui fonctionnent comme ça, il y a des chercheurs qui nous disent que c'est comme ça, et il y a des pays étrangers qui réussissent mieux que nous qui fonctionnent comme ça. Que des approches davantage fondées sur la coopération, sur l'explicitation, sont plus propices, sont plus favorables à la réussite de tous les élèves. Si vous ne l'avez pas fait, allez sur le site internet, regardez mon rapport, Et ce n'est pas pour ce que j'écris, c'est pour la parole que je donne aux acteurs. Regardez, il y a un magnifique témoignage de professeurs, de chefs d'établissement et d'élèves du lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, dont le projet est tout entier centré sur la coopération, sur l'entraide, sur la solidarité. C'est un établissement qui a des résultats absolument formidables. Donc ce n'est pas du rêve. On sait aussi, la rectrice en a dit un mot tout à l'heure, que nous devons dans ce pays absolument réfléchir à la manière dont nous évaluons nos élèves. Ça n'est pas anormal qu'un pays s'interroge sur la manière dont il évalue ses élèves. Alors, bien sûr, si on se satisfait du système tel qu'il est aujourd'hui, qui trie et qui sélectionne, il le fait très bien, on ne change rien, tout va très bien. Mais si on veut vraiment entraîner la plus grande masse des élèves vers la réussite, il faut qu'on s'interroge sur la manière dont on évalue les élèves dans ce pays. C'est mon ami Philippe Mérieux, qu'on connaît bien ici, qui dit que dans ce pays, mais il a parfaitement raison, on passe son temps à évaluer les élèves pour savoir si certains d'entre eux ne seraient pas mieux ailleurs. Donc réfléchissons en effet à ce que nous faisons quand nous évaluons les élèves. De nouveaux rythmes scolaires, oui. On sait que c'est propice à la réussite de tous les élèves si les rythmes scolaires sont plus adaptés. On est encore une fois un curieux pays. Pourquoi avons-nous fait cette folie de concentrer le temps scolaire de nos enfants d'école primaire sur 4 journées de 6 heures? Aucun pays au monde nous a imités. Étonnant. Donc soyons au contraire très fiers d'avoir collectivement remis une 5e matinée de classe aux enfants d'école primaire dans ce pays, parce qu'on apprend quand même un peu mieux le matin qu'en fin de journée quand on est élève de cours préparatoire. Mais vous avez vu comme moi combien ça a été difficile. Combien ça a été difficile de remettre une 5e matinée de classe dans ce pays. Si j'ai 3 minutes, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais directeur de l'enseignement scolaire, j'ai eu l'honneur de présenter au Conseil supérieur de l'éducation le décret en janvier 2013 sur la 5e matinée de classe. Et j'ai rappelé aux membres du Conseil supérieur de l'éducation en 2013, dont la plupart étaient les mêmes qui siégeaient en 2008, quand on a mis en place la semaine de 4 jours. Et j'ai rappelé dans un silence de cathédrale quel avait été le vote du Conseil supérieur de l'éducation en 2008, quand on est passé à 4 jours. Bien sûr, il y avait des votes défavorables. Mais quand on additionne le nombre de votes favorables, parce qu'il y avait des votes favorables dans la communauté éducative à passer à 4 jours, et les abstentions qui étaient favorables, mais que je n'osais pas le dire, c'était en nombre supérieur à ceux qui étaient défavorables. La réforme des 4 jours, c'est une réforme d'adultes pour les adultes, totalement irresponsables, et qui ont en fait totalement oublié l'intérêt des enfants. D'une certaine manière, alors je vais paraître peut-être un peu sévère, mais tant pis, celles et ceux qui peuvent donner à leurs enfants le mercredi matin des cours de poney ou de conservatoire, n'avaient peut-être pas besoin de cette 5e matinée de classe. Parce que le capital culturel, l'environnement de la famille peut sans doute, peut-être, suppléer le manque de travail à l'école. Mais tous les autres, qui s'est soucié de tous les autres? Des décisions d'orientation. Réfléchissons plus que nous le faisons aujourd'hui à ce que nous faisons quand nous orientons les élèves.
J'ai fait faire, à l'occasion de mon rapport, un travail à un inspecteur de la formation d'orientation d'Académie d'Amiens. Nous avons pris pour la rentrée, pour le juin 2014, tous les élèves de 3e de cette académie qui avaient obtenu juste 10 de moyenne aux épreuves terminales du brevet. Et j'ai demandé que sont devenus ces élèves-là, donc qui sont dans la moyenne, en décision d'orientation après la 3e. Que sont-ils devenus en fonction de leur CSP d'origine ? La réponse est dans la question. Les enfants des classes moyennes et classes favorisées qui avaient 10 de moyenne aux épreuves terminales du brevet, les conseils de classe, les chefs d'établissement se sont dit « Ah, on va peut-être tenter la seconde générale ». Et celles et ceux qui étaient de CSP défavorisés, on s'est dit « Oh, on va pas prendre de risques, on va les orienter en lycée professionnel ». On sait aussi que quand on fait davantage confiance aux équipes, quand on leur laisse prendre des initiatives, c'est favorable à la réussite de tous les élèves. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire une citation, parce que c'est une directrice d'école qui m'a dit ça. Elle dit tout dans ces 7 lignes. « Il faut tout un établissement, dit-elle, pour faire grandir un enfant. Si on est 4, on a 5 intelligences, puisque la 5e est celle du groupe. On prépare des séances d'enseignement ensemble, qu'on mène ensemble, l'un regarde l'autre et réciproquement, puis on fait une évaluation partagée. Si on arrive à faire progresser les élèves qui rencontrent le plus de difficultés, alors on fait avancer tout le monde. » C'est en France, ça existe. Vous savez que l'évaluation PISA 2015 montre que c'est en France que les enseignants se parlent le moins, échangent le moins sur leur pratique éducative, se rendent moins la visite d'une classe à l'autre pour voir comment son collègue travaille. Donc là, quand on est 4, en fait, on a 5 intelligences, puisque la 5e intelligence est celle du groupe. Bien sûr, il y a un 3e levier, c'est notre politique de gestion et de formation des ressources humaines. On sait tous que dans la scolarité d'un enfant de milieu défavorisé, le fait d'avoir devant lui des professionnels expérimentés, formés, stables, ça a un impact supérieur à son origine sociale. Donc ça vaut le coup d'investir, évidemment, en ressources humaines. Et donc il faut accepter cette idée de prendre des mesures exceptionnelles en direction des personnels qui connaissent des conditions de travail particulièrement difficiles. On ne sait pas suffisamment le faire dans notre pays. Une des choses dont on est fier ces dernières années, c'est ce que nous avons fait pour les REP+. Pour la première fois dans ce pays, on a pondéré le service des enseignants qui travaillent en REP+. Là encore, on est un curieux pays parce qu'on n'avait jamais considéré que ce travail-là, dans les REP+, c'était un travail qui nécessitait de la recherche, un très haut niveau scientifique, beaucoup de travail participatif, collégial pour élaborer des projets, beaucoup de temps passé à rencontrer les parents, les familles. On savait tout ça, mais on n'en avait jamais tiré la conséquence pour le service des enseignants. Alors que, et je n'ai rien contre les classes préparatoires aux grandes écoles, mais de toute éternité, on avait quand même considéré que ces professeurs avaient un gros travail, on avait raison, que ça nécessitait une très haute culture scientifique, et on avait raison, beaucoup de travail de correction, etc., etc. Et depuis tout le temps, on avait pondéré leur service. Mais on n'avait jamais songé à le faire pour les personnels confrontés aux plus grandes difficultés sociales. C'est un tout début, hein, parce que ce n'est pas avec la petite pondération que nous avons mise en place à la rentrée, là, 2014, que les choses vont être réglées. Il va falloir aller plus loin, je le dis, moi, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin si on veut vraiment stabiliser des équipes pédagogiques efficaces. On sait, évidemment, tout l'espoir que nous fondons dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, sachant que, là, on est au début, personne n'est en train de vous dire que c'est parfait ce qui se met en place, mais il va falloir être patient pour reconstruire enfin une formation professionnelle, puisque quand on interroge les enseignants français parmi leurs collègues de l'OCDE, et quand on demande aux enseignants de l'OCDE quels sont vos besoins en formation, ce sont les Français qui disent qu'ils sont les moins formés en pédagogie. Donc on voit bien là quelles sont nos progressions. Formés à quoi ? Formés aux relations avec les familles, parce que ça, nous avons un sujet dans notre système éducatif de relations avec les familles. Je vous invite à lire le rapport de la députée Valérie Corr, qui est sorti il y a 2 ans sur les relations entre le système éducatif et les familles, et elle est sévère à notre égard, elle n'a pas tort, parce qu'on ne sait pas vraiment s'y prendre avec les familles. Mais il y a un sujet dans le sujet, s'agissant des familles qui sont en situation de grande difficulté, en grande détresse. Nous ne savons pas suffisamment en tout cas, trouver le chemin de relations confiantes avec elles. On pourra en parler tout à l'heure dans les échanges.
connaissance réciproque des différents acteurs de l'acte éducatif. J'étais hier à Arras, je vais vous donner un exemple que je trouve moi formidable. Dans certains établissements de cette ville qui connaît de grandes difficultés, à la rentrée, les chefs d'établissement ont consacré 2 jours à faire sortir les nouveaux personnels de l'établissement et à les faire aller dans le quartier, rencontrer les associations, rencontrer les autres partenaires de l'État, sentir un peu l'air du quartier, voir un peu où vivent les élèves que l'on va avoir en classe 2 jours après. Donc c'est des petites... c'est rien à faire, hein, c'est absolument rien à faire. De même que dans les ESP, on est en train de mettre en place des options pour familiariser les enseignants à la vie associative. Le travail sur les supports pédagogiques, c'est un sujet qui manque encore cruellement dans nos formations initiales et formations continues, parce qu'il y a des manuels, il y a des outils pédagogiques qui contribuent à la réussite de tous les élèves, et puis on a des outils et des manuels pédagogiques qui ne sont pas adaptés, mais ça, on ne s'est pas suffisamment intégré dans nos formations. Et puis, bien sûr, utiliser les résultats de la recherche en éducation. Il y a un quatrième levier, je rassure mon collègue qui est devant, 5 minutes, voilà, comme ça je serai pile dans l'heure. Quatrième levier, une alliance éducative. Entre nous et un certain nombre de partenaires pour qu'on parvienne à conjuguer nos compétences et pas seulement à nous les partager et à les juxtaposer. Et je reviens sur les parents, on en parlera dans les débats, enfin dans les échanges et puis après les témoignages qu'on va entendre dans un instant. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses se font avec les parents de milieu populaire. Beaucoup de choses à faire avec les collectivités territoriales et on a l'exemple magnifique de ce qu'on peut faire avec les collectivités territoriales pour relancer l'internat dans ce pays. Beaucoup de choses à faire avec les collectivités territoriales et le monde associatif, notamment les associations complémentaires de l'école, par exemple pour travailler à un meilleur accompagnement à la scolarité. Donc voilà, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Pourquoi est-ce que ça avance aussi peu et aussi lentement dans notre pays? Donc je reviens à ce que je vous disais au tout début. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Depuis 40 ans, on a beaucoup travaillé, on a massifié l'enseignement secondaire, mais que s'est-il passé dans cette massification de l'enseignement secondaire? Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on n'a pas supprimé les inégalités en massifiant l'enseignement secondaire. On les a simplement déplacées. Regardez les quelques chiffres, je ne vous ai pas donné beaucoup de chiffres, mais regardez cela. C'est le baccalauréat passé par les enfants d'ouvriers en 2012. Quel baccalauréat y passe aujourd'hui les enfants d'ouvriers dans ce pays? 31% la filière générale. 23% la filière technologique, 46% la filière professionnelle. Quel baccalauréat passent les enfants d'enseignants et de cadres supérieurs? Je laisse planer un suspense insupportable. ⁇ 75% la filière générale, 14% filière techno et 10% filière professionnelle. Ce qui nous fait un petit sujet, mes chers collègues. Comment valoriser l'enseignement professionnel dans ce pays quand on en fait un enseignement réservé aux enfants des autres? Quand vous constatez aussi que 84% de nos enfants de SECPA sont des enfants de CSP défavorisés. Les SECPA font un formidable travail. Je connais le travail des SECPA, c'est formidable ce qu'ils font. Mais est-ce normal qu'on n'y voit pratiquement que des enfants de CSP défavorisés? À quoi sert l'enseignement spécialisé dans notre pays? Alors qu'il fait un travail absolument formidable, et je veux encore une fois leur rendre hommage.
Une réponse essentiellement politique.
Pourquoi ça avance si peu et si lentement? Alors là, je vais vous donner mon opinion complètement personnelle. C'est que je pense que la question n'est pas technique. Parce que j'ai montré techniquement, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. On sait comment il faudrait réorienter le budget de la nation pour que notre école soit plus efficace, priorité aux primaires, etc., etc. C'est qu'en fait, le sujet, il est politique. Et pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que les dysfonctionnements dont on est en train de parler ne nuisent pas à tout le monde. Il y a une partie de la population française qui n'a pas forcément envie que l'école se transforme. Parce que cette partie de la population française a un système éducatif qui finalement correspond bien à ce que ses enfants souhaitent, veulent faire. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à dépasser ces intérêts particuliers pour reconstruire de l'intérêt général autour de cette grande cause nationale qui devrait être la scolarité réussie pour tous les élèves et pas seulement trier et sélectionner les meilleurs. Prenons l'exemple du collège. La réforme du collège. Au hasard. Les langues vivantes. Un des grands progrès démocratiques de cette réforme du collège, c'est d'offrir une deuxième langue vivante à tous les enfants de cinquième. C'est ce que j'appelle bilangue pour tous. Qui ça peut gêner ? Qui ça peut gêner ? A priori, personne. Sauf peut-être celles et ceux de nos concitoyens qui utilisaient le bilangue dès la classe de sixième, peut-être pas pour la beauté du russe, de l'espagnol ou de l'allemand, mais par la possibilité que cela leur offrait de scolariser leurs enfants isolés des enfants du peuple. Je laisse planer cette question. Qui ça peut gêner ? Alors évidemment, celles et ceux qui s'opposent à ce type de réforme appartiennent aux catégories sociales qui ont la parole. Elles s'expriment dans les médias. Elles peuvent bloquer des réformes parfois. Cette réforme s'adresse à l'ensemble de la population scolaire, notamment aux enfants des 8,5 millions de pauvres. Sauf que ces 8,5 millions de pauvres, ils n'ont pas voix, eux, aux médias. Ils ne s'expriment pas. Ils ne peuvent donc pas défendre des politiques scolaires qui sont des politiques d'intérêt général. On n'entend que ceux qui ont que des intérêts particuliers à défendre. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument travailler dans ce pays pour une instruction commune, un socle commun, un tronc commun le plus long possible dans la scolarité obligatoire pour tous les élèves ? C'est parce qu'on voit bien que sinon, personne ne vous dit que c'est facile, mais certains sont en train de nous dire que c'est impossible. Et donc on va revenir, on va l'entendre à des solutions que j'appelle moi des solutions paresseuses, hein, de séparation précoce des enfants, et évidemment ça aura un marquage social évident, que l'on masque de temps en temps par quelques actions en direction des élèves méritants. Ferdinand Buisson, je vous l'ai mis là parce que j'aime bien Ferdinand Buisson, il parlait de ces élèves du peuple que l'on faisait réussir, il disait que ce sont des exceptions consolantes. C'est un peu ce qu'on avait fait avec les internats d'excellence il y a quelques années. On organise pour quelques-uns quelque chose d'absolument formidable, et puis tant pis pour les autres, parce qu'ils n'étaient pas méritants. C'est sans doute Condorcet qui nous a dit le plus clairement pourquoi, dans un pays, il était absolument essentiel de travailler à ce socle commun, cette instruction commune à tous les citoyens. Quand il nous dit que quand dans un pays, la confection des lois, les travaux d'administration, la fonction de juger deviennent des professions particulières réservées à ceux qui s'y sont préparés par des études propres à chacune, alors on ne peut plus dire qu'il règne une véritable liberté. Il écrit ça en 1791. Il se forme nécessairement dans une nation une espèce d'aristocratie, non de talent et de lumière, mais de profession. Le pays le plus libre est celui où un plus grand nombre de fonctions publiques peuvent être exercées par ceux qui n'ont reçu qu'une instruction commune. Je crois qu'on n'a jamais dit des choses aussi intelligentes. La question, c'est comment est-ce que l'on peut faire aujourd'hui porter ce débat par des élites qui n'ont jamais été autant clonées socialement.
Trois raisons de produire cet effort collectif de solidarité.
S'il nous fallait trouver trois raisons, et je termine, pour nous mobiliser dans cet objectif unique de réduction des inégalités, la première raison serait une raison de justice pour les jeunes qui sont touchés dans leur âme, dans leur être profondément. Enfin, on ne mesure pas les dégâts que ça peut représenter pour des personnalités, ces scolarités qui ne sont qu'une longue suite d'échecs et d'humiliations. C'est aussi une question de survie pour notre pacte républicain. Parce qu'il y a aujourd'hui dans la nature, chers collègues, 1,9 million de jeunes femmes et de jeunes hommes de 16 à 29 ans qui ne sont ni en formation ni en emploi. Et la moitié d'entre eux sont ni en formation, ni en emploi, ni en accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ils sont invisibles. Que font-ils toute une journée ? À quoi pensent-ils ? Et accessoirement, au moment des élections, que font-ils ? C'est un danger pour notre pacte républicain parce que celles et ceux qui estiment, à tort ou à raison, qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres, peuvent-ils longtemps considérer qu'ils ont les mêmes devoirs que les autres ? Et puis enfin, s'il fallait une raison bassement économique, bassement matérielle, tous les économistes, quelle que soit leur école de pensée économique, nous disent que les inégalités freinent la croissance. C'est-à-dire que notre pays ne retrouvera pas son rang, ne supportera pas la comparaison avec la mondialisation si nous ne parvenons pas à réduire les inégalités dans ce pays. D'une certaine manière, l'intérêt bien compris de notre pays rejoint notre idéal commun d'une école plus juste. Je vous remercie.
Intervention enregistrée le 8 décembre 2016 dans le cadre du séminaire « Grande pauvreté et réussite scolaire » organisé par le rectorat de l'Académie de Lyon et la DSDEN de la Loire. Enregistrement, mixage et mise en ligne, Canopée site de Lyon.